Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 30 septembre 2021. Jean-Roger Pion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Le chef de la jeune prête serment demain vendredi, le colonel Mamadi Doumbouya sera installé comme chef de l'État. 13 morts, c'est le bilan d'une nouvelle attaque au Nigeria. Les assaillants ont visé un village non loin de la ville de Kaduna, dans le centre du pays. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison pour financement illégal de sa campagne. Son avocat compte faire appel. Le Congrès américain au pas de course pour adopter le budget. Objectif, éviter la paralysie de l'État fédéral américain avant minuit aujourd'hui. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute de faux et l'espoir, mais tout d'abord le journal. Le chef de la junte au pouvoir en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, va prêter serment demain comme président de transition. Les détails avec Jacques Aristide.
Mamadi Doumbouya, chef de l'État guinéen, il le sera formellement demain à partir de midi. Le colonel va être investi lors d'une cérémonie prévue au palais Mohamed V à Conakry, après avoir renversé le président Alpha Condé au début du mois. Il va prendre ses fonctions pour une durée indéterminée avant retour des civils à la tête du pays. Le colonel Doumbouya et le comité militaire, créé après le putsch, ont fait part de leur volonté d'organiser des élections à l'issue de la transition dont ils n'ont pas indiqué la durée, en dépit des pressions de la CEDEAO, la communauté des États ouest-africains. Le bloc régional, inquiet de l'instabilité dans cette partie de l'Afrique et d'un effet de contagion après deux coups d'État en un an au Mali voisin, réclame la tenue d'élections présidentielles et législatives dans les 6 mois en Guinée. La CEDEAO a déjà infligé des sanctions individuelles aux membres de la junte. Une charte publiée par les militaires confirme le colonel Doumbouya comme le nouvel homme fort du pays. Chef de l'État et chef suprême des armées, il nomme par décret le premier ministre de transition et peut le révoquer. Mais la charte stipule que le colonel ne pourra être candidat aux élections prévues à la fin de la transition.
Les Gambiens devront encore patienter pour prendre connaissance du rapport sur les crimes présumés de l'ancien président Yahya Jammeh. La cérémonie de remise au président gambien Adama Barrow de ce rapport établi par la commission Vérité, Réconciliation et Réparation prévue ce jeudi a été reportée sine die. La TRNC avait qualifié dans un rapport intérimaire publié en avril 2020 les violations des droits humains sous Yahya Jammeh de massives, effroyables et diverses, citant les tortures, exécutions extrajudiciaires, des viols, les disparitions forcées, les arrestations et les détentions arbitraires. 13 personnes ont été tuées par des hommes armés qui ont attaqué hier soir un village situé dans le centre du Nigeria, ont indiqué aujourd'hui les autorités locales. Le point avec Nani Talani.
Mardi soir, des bandits venus de Kaduna ou d'autres états voisins ont encerclé le village de Kashiwe dans le district de Mounia et lancé une attaque. Les villageois ont couru se cacher, certains d'entre eux ont été transportés à l'hôpital, a affirmé le responsable de l'information de l'état du Niger, Mohamed Idriss. Il précise que le bilan pourrait s'alourdir. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis plusieurs années le théâtre de violences perpétrées par des groupes armés appelés localement bandits qui attaquent les villages, volent du bétail, pillent et kidnappent contre le versement de rançon. Cette année, ces gangs ont pris pour cible des écoles et des universités, enlevant plus de 1400 élèves, selon l'UNICEF, pour obtenir une rançon des autorités et des parents. L'armée a lancé une campagne anti-bandits depuis début septembre dans l'état de Zamfara, principal repère des bandits. Les états voisins ont, pour leur part, imposé des restrictions, dont l'interdiction du transport de bétail et de bois de chauffage, la suspension de certains marchés aux animaux et des plafonds sur les ventes de carburant. Ils ont également coupé les réseaux téléphoniques pour empêcher les groupes armés d'échanger entre eux sur les mouvements de troupes.
L'Éthiopie va expulser 7 responsables d'agences de l'ONU. Ils sont accusés d'ingérence par Addis Abeba en vertu des lettres adressées à chacun des 7 individus listés Tous doivent quitter le territoire de l'Éthiopie dans les 72 prochaines heures, au moment où la crise humanitaire dans la région en guerre du Tigré est régulièrement dénoncée par les organisations onusiennes. La guerre fait rage depuis plus de 10 mois au Tigré, où le premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée pour renverser les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, qu'il accuse d'avoir orchestré des attaques contre des camps militaires fédéraux. Un tribunal rwandais a condamné aujourd'hui une youtubeuse, critique du pouvoir du président Paul Kagame, à 15 ans de prison pour incitation à la violence. Yvonne Idamangé, 42 ans et mère de 4 enfants, n'était pas présente au tribunal de Kigali à la lecture du verdict. Il lui était reproché d'avoir, sur sa chaîne YouTube, accusé le président Kagame et son gouvernement d'avoir mis en place une dictature, d'instrumentaliser le génocide de 1994 sans venir suffisamment en aide aux survivants ou d'avoir transformé les mémoriaux du génocide en attractions touristiques. En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste ENADA, principale force au Parlement, suspendu depuis le coup de force du président Kais Saied, a dit aujourd'hui comme inconstitutionnel la nomination d'une nouvelle chef du gouvernement. Selon ce mouvement bête noire du président Saied, cette nomination qui ne respecte pas les procédures constitutionnelles aggravera les crises économiques et sociales dans le pays et n'aidera pas à les résoudre. Mercredi, le président tunisien Kais Saied a nommé au poste de premier ministre la géologue Najla Boudène et l'a chargée de former une nouvelle équipe gouvernementale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le tribunal correctionnel de Paris a condamné ce jeudi Nicolas Sarkozy à 1 an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012 dans le cadre de l'affaire dite Big Malion, une décision contre laquelle l'ancien président de la République a décidé de faire appel. Les précisions de John Lydon.
La peine est supérieure aux réquisitions du parquet qui avait demandé 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Elle sera néanmoins aménageable en détention à domicile sous surveillance électronique. Nicolas Sarkozy, qui n'était pas présent lors du délibéré, avait nié en juin lors de son procès toute intention de fraude et réfuté avoir eu connaissance d'un montage de fausses factures afin de financer sa campagne présidentielle de 2012 pour quelque 42,8 millions d'euros, près du double du plafond autorisé par la loi. Mais la présidente du tribunal, Caroline Viguier, a estimé que l'ancien président avait été averti du dépassement du plafond légal et avait continué en toute connaissance de cause à organiser des meetings électoraux. Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, a déclaré à la sortie de l'audience que son client ferait appel de la condamnation. 13 autres prévenus, notamment les anciens cadres de Big Malion et de l'UMP, étaient poursuivis pour faux, usage de faux, abus de confiance ou escroquerie, des délits passibles de 3 à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende.
Le jeune militant dont Greta Thunberg, engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, ont exhorté aujourd'hui le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, président en exercice du G20, à passer des paroles aux actes dans la perspective du sommet de la COP26, la réunion de Milan à laquelle participent des milliers de militants, vise à formuler des propositions sur le réchauffement climatique et à rencontrer les responsables politiques attendus pour la pré-COP26. La 26e conférence de l'ONU sur le climat est prévue du 1er au 12 novembre à Glasgow, en Écosse. Course contre la montre ici aux États-Unis, les parlementaires américains doivent s'entendre sur un budget avant ce soir minuit s'ils veulent éviter l'assèchement soudain des finances du gouvernement fédéral. Claire Morin-Gibourg.
L'enjeu est de taille. Le président Biden a préféré annuler un déplacement prévu hier à Chicago pour rester à Washington et mener les négociations avec des élus clés de son groupe. Il espère également trouver une issue pour ces 2 colossaux projets d'investissement dans les infrastructures et les réformes sociales, actuellement dans l'impasse. En parallèle, une autre mission cruciale incombe aux parlementaires, éviter en 2 temps l'effondrement des finances publiques. D'une part, ils doivent approuver dans les prochaines heures un mini-budget valide jusqu'en décembre pour éviter la paralysie du gouvernement fédéral, car la loi de finances actuelle expire jeudi soir à minuit. De l'autre, ils doivent relever d'ici le 18 octobre la capacité d'endettement des États-Unis s'ils veulent éviter le premier défaut souverain de la plus grande puissance économique mondiale.
La réunion d'urgence que devait tenir aujourd'hui le Conseil de sécurité de l'ONU sur la Corée du Nord a été repoussée à demain vendredi à la demande de la Chine et de la Russie. Dans un élan d'unité rare ces derniers temps, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni avaient demandé mercredi cette session à huis clos pour discuter du dernier tir de missile par Pyongyang, présenté comme un hypersonique par les Nord-Coréens. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Claire Morin-Gibourg.
Dans un nouveau rapport, le Forum économique mondial souligne que l'Afrique a besoin de plus de financement pour accélérer la transition énergétique et réduire les émissions de carbone. Selon le Forum, cette transition doit être soutenue par les 3D, c'est-à-dire la décarbonisation, soit le passage des sources de combustibles fossiles aux énergies renouvelables, mais également la décentralisation et la numérisation. C'est le soulagement pour les commerçants et les transporteurs à la frontière entre la Guinée et le Sénégal. La frontière a été réouverte hier, après près d'un an de fermeture. Financial Afrique pointe les pertes économiques considérables subies, particulièrement par les commerçants de la région du Fouta, avec l'arrêt du trafic avec le Sénégal. En Tunisie, la nouvelle chef du gouvernement va devoir se pencher en priorité sur la grave crise économique que traverse le pays. La croissance est en berne depuis 10 ans et une forte inflation de 6% par an a été aggravée par la pandémie de Covid qui a mis le pays à l'arrêt et l'a privé d'importantes recettes touristiques. Sur Facebook, Madame Bouden a promis d'œuvrer à la formation d'un gouvernement homogène pour faire face aux difficultés économiques du pays et lutter contre la corruption.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Nous commençons ici aux États-Unis avec du basketball. Les joueurs qui ne respectent pas les obligations en matière de vaccination contre le Covid-19 dans les villes de New York et San Francisco ne seront pas payés pour les matchs qu'ils seront contraints de manquer à domicile. C'est ce qu'a annoncé Mike Bass, vice-président de la NBA. La municipalité de New York a adopté un décret imposant aux sportifs professionnels de prouver qu'ils ont reçu au moins une dose du vaccin pour avoir accès aux installations de leur club. À San Francisco, une ordonnance similaire entrera en vigueur début octobre. Ces mesures affectent notamment Kyrie Irving, la star des Brooklyn Nets, et Andrew Wiggins, joueurs des Golden State Warriors qui font partie des 10% du contingent de la Ligue à ne pas être vaccinés. La NBA reprend le 19 octobre. En Europe, la Lazio Rome, après une défaite d'entrée en Ligue Europa, se présente en favorite face au Lokomotiv Moscou pour la deuxième journée de la phase de groupe ce soir. Galatasaray se déplace sur la pelouse de Marseille, un match sous haute surveillance. Après plusieurs épisodes de violence entre supporters dans le championnat français la semaine dernière, autre club français en lice, Monaco, qui se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad. Le Betis Séville se déplace à Budapest chez le club hongrois de Ferencváros. Leverkusen, deuxième de Bundesliga, invaincu depuis 5 matchs, se déplace en Écosse. Hier, en Ligue des Champions, le FC Barcelone a été sèchement battu par le Benfica 3-0 à Lisbonne. Lors de la deuxième journée, le Bayern Munich a balayé le Dynamo Kiev 5-0 avec un nouveau doublé de Robert Lewandowski. Chelsea, tenant du titre, s'est incliné 1-0 face à la Juventus. Cristiano Ronaldo a sauvé Manchester United en marquant à la 95e minute pour permettre aux Mancuniens de l'emporter 2-1 à Old Trafford face à Villarreal. Boxe, 5 des 6 médailles françaises lors des JO 2016 de Rio figurent parmi les combats suspects de manipulation des arbitres, révèle une enquête indépendante du juriste canadien Richard McLaren. Son équipe a confirmé l'existence, soupçonnée depuis des années, d'un système de tricherie orchestré au sein de la Fédération internationale de boxe et a identifié 11 combats suspects lors du rendez-vous olympique brésilien. Parmi eux, les finales remportées par Tony Yoka face au Britannique Joe Joyce dans les plus de 91 kilos et par sa compagne Estelle Mosseli contre la Chinoise Yanhua Yin dans les moins de 60 kilos. Les conclusions de l'enquête seront remises à la Fédération internationale de boxe qui devra déterminer si ces combats ont effectivement été manipulés, a indiqué Richard McLaren. Le nouveau patron de la Fédération de boxe élu fin 2020, le russe Oumar Kremlev, a promis d'examiner attentivement le rapport et voir quelles mesures sont nécessaires pour garantir la justice.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Des représentants du gouvernement et de l'opposition de la République centrafricaine viennent de se rencontrer aux 3 jours à Rome sous la médiation de la communauté religieuse de Sant'Egidio. Les consultations ont débuté lundi dans la capitale italienne et se sont closes hier. Les participants ont notamment abordé l'épineuse question du désarmement des groupes armés en RCA, pays pauvre en guerre civile depuis plus de 7 ans. Côté autorité, était présent le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Evariste Ngamana, et le directeur de cabinet du premier ministre, Henri-Marie Dondra, Ernest Mada. Côté opposition, les anciens premiers ministres Anissé Georges Dologuélé, Mahamat Kamoun et Martin Ziguélé. Martin Ziguélé, qui est également député à l'Assemblée nationale et président du parti MLPC. Jacques Aristide l'a joint lors de son passage à Paris aujourd'hui.
Ce qui ressort de la réunion qui a eu lieu à Rome, c'est que nous sommes tous décidés à aller à un dialogue qui aille au fond des choses, au fond des problématiques, mais entre les forces vives de la nation exclusivement, pour essayer de ramener la paix dans notre pays. Les groupes armés ne participeront pas à cette réunion en tant que groupes armés, mais leur processus sera parallèle et dépendra donc des activités en cours ou des actions en cours de la CEAC et de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Mais le dialogue en lui-même ne concernera que les forces vives de la nation et la volonté est réelle d'y participer et d'aller au fond des choses pour mettre fin à 61 ans d'instabilité politique et sécuritaire.
Les participants, dont vous-même, ont appelé les groupes armés à déposer les armes et à adhérer sans réserve au programme national de désarmement. Mais de tels appels ont été lancés à maintes reprises par le passé. Qu'est-ce qui va changer maintenant?
Les participants ont appelé les groupes armés, mais aussi les groupes d'autodéfense et les milices qui existent dans certains quartiers de Bangui et en province à déposer les armes. C'est un appel solennel. Cela ne veut pas dire que les actions ne seront pas faites dans le cadre, comme je le disais, des chefs d'État de la CEAC et de la CIGL qui travaillent avec les groupes et mouvements armés pour que des actions énergiques soient faites pour que ces groupes-là aillent au DDRR. Je ne sais pas si vous le savez, mais certains, surtout groupements d'autodéfense, ont exprimé la volonté d'entrer dans le processus de DDR. Ils n'ont pas été admis parce qu'ils ne sont pas formellement de groupes armés. Nous avons trouvé tout cela absurde. C'est pour ça que notre idée, c'est de demander à tous ceux qui détiennent des armes de pouvoir adhérer à ce mouvement de DDR.
Ces pourparlers doivent servir à préparer le dialogue national promis par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, dialogue qui doit se tenir avant la fin de l'année à Bangui. Y a-t-il encore un espoir de paix dans votre pays?
Oui, il y a toujours un espoir de paix. En tout cas, il faut toujours essayer de travailler pour obtenir la paix. Lorsqu'on est fils d'un pays ou fille d'un pays, lorsqu'on veut que son pays avance, on est obligé d'être optimiste. Et je crois que le fait que les choses soient désormais très claires, que le dialogue politique se fera entre les forces vives et qu'un autre processus concernera les groupes armés, les groupes d'autodéfense, les milices, etc. d'un côté pour aboutir au DDR, peuvent donner de l'espoir. Mais naturellement, tout cela se fera lorsque l'engagement des responsables centrafricains à tous les niveaux sera réel, sera certain. Et lorsque nous voyons l'état dans lequel, l'état de délabrement et l'état d'insécurité généralisée dans lequel notre pays se trouve actuellement, je crois que le patriotisme de chacun sera au rendez-vous. Sera au rendez-vous pour qu'il y ait les concessions nécessaires, pour qu'il y ait les engagements nécessaires pour que nous arrivions à la paix.
L'ex-premier ministre Martin Ziguélé, président du mouvement de libération du peuple centrafricain, lors de son escale dans la capitale française au lendemain des échanges tenus à Rome.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Cameroun, le processus de renouvellement du sommier politique du RDPC, le parti au pouvoir, est émaillé par de vives tensions et actes de violence. Dans plusieurs localités, les militants du parti du président Paul Biya ont troublé l'ordre public pour protester contre les irrégularités lors du choix des nouveaux responsables de section et sous-section du RDPC. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jeulentap.
Dans le sud du Cameroun, région natale du président Paul Biya, Les militants en furie ont incendié le domicile de fonction du sous-préfet de Bengbis. Maître Emmanuel Pensi est avocat et combattant du RDPC. Il livre une version des faits de l'incident.
Il y avait deux candidats qui ne remplissaient pas les conditions. Leur liste aurait été éliminée. Et à partir de ce moment-là, il y avait un candidat qui s'est présenté. Et comme semble-t-il, un candidat éliminé était populaire, alors que le sous-préfet était en train de s'interposer pour qu'il n'y ait pas de casse. Les autres personnes sont allées donc brûler sa maison.
À Kongyambeta, à Olangina, dans la région du centre, ou dans le 5e arrondissement à Yaoundé, des militants du RDPC ont troublé le processus de renouvellement des bureaux des organes de base. Dieudonné Essomba à Temengue, militant de la sous-section RDPC de Yaoundé 5, dit avoir dénombré des charters électoraux.
Nous avons des images où des bus de plus de 70 places déportaient des gens pour les amener, puis dans les villages, personne ne les reconnaissait.
Martin Bida, candidat à la sous-section RDPC dans la commune de Langina, dénonce les mêmes faits.
C'est les militants du parti frère, l'ANDP, qui sont venus voter en masse en tenue du parti.
Le processus électoral a été parfois brillamment interrompu. Les urnes et bulletins de vote vandalisés par les militants, un candidat a même sorti son arme à feu durant la campagne dans la localité de Ligfomo, au nord de Yaoundé. Candidate au poste de président de sous-section OFRDPC en Coltop, dans la région du centre, Catherine Eyenga a fait arrêter le vote à deux reprises.
Mon nom, qui était tête de liste, n'était pas sur le babillard et encore moins dans le fichier du bureau de vote. Le 19 septembre, on a forcé une élection. Nous n'étions pas signifiés pour la tenue des élections. Donc nous avons encore une nouvelle fois enlevé les yeux et stoppé le vote.
Jusqu'ici, aucun processus de renouvellement des organes de base du RDPC n'a suscité tant de passion. Steve Tameton est analyste politique. Il pense que deux causes peuvent justifier un tel déchirement en interne.
La première cause, c'est la rupture entre le sommet du parti et la base à travers l'imposition de certains candidats par le sommet du parti, des candidats jouissant d'une illégitimité notable en laquelle les populations à la base ne se reconnaissent pas. Cela a été source de frustration et de tension lors des opérations de renouvellement des organes de base. La deuxième cause, il y a comme une guerre de tranchées au sein du parti avec une volonté des acteurs de se positionner, de jouer un rôle important dans l'influence, l'exercice du pouvoir dans les années à venir.
Le secrétariat général du comité central du RDPC n'a jusqu'ici fait aucun commentaire sur ces actes de violence. Au total, 377 sections du Cameroun et de l'étranger sont concernées par le renouvellement des bureaux de base. Yaoundé, Emmanuel Zumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Nigeria, les autorités ont rouvert des écoles à Kaduna, un état du nord du pays, après les avoir fermées pendant 2 mois en raison de l'insécurité. La région a subi une série d'enlèvements armés. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF, a déclaré qu'environ 1 million d'enfants nigériens ont peur de retourner à l'école. De Kaduna, le reportage de notre correspondant Timothy Obiezu, récit Yakuba Ouedraogo.
L'éducatrice nigériane Naomi Ibrahim a ouvert l'école primaire de Kouita dans l'état de Kaduna il y a 7 ans après qu'une attaque de Boko Haram l'a forcée à fuir sa ville natale dans l'état de Borno. Elle dit que son objectif est d'offrir une éducation de base aux enfants touchés par le conflit, mais des vagues de violence et d'enlèvements de masse menacent son travail et éloignent les élèves. Seulement 50 des 120 étudiants environ se sont présentés à la réouverture.
Certains viennent de Borno, d'Adamawa, de Gombe et d'autres endroits. Nous ne faisons que prier, c'est Dieu qui nous protège.
Kaduna est l'un des états les plus touchés par les enlèvements de masse dans les écoles qui ont commencé dans le nord du Nigeria à la fin de l'année dernière. Depuis décembre, le gouvernement rapporte que plus de 1000 écoliers ont été enlevés dans les écoles de la région. Ces enlèvements sont généralement effectués par des gangs criminels locaux appelés bandits qui exigent une rançon aux familles des victimes. Les autres états touchés sont le Niger, Zamfara et Katsina. Pour résoudre le problème, les autorités de l'état de Kaduna ont fermé les écoles en juillet, mais les ont rouvertes ce mois-ci, affirmant que la situation s'est améliorée. Un constat partagé par Abou Mohamed, chef de communauté.
Il y a vraiment une mise à niveau en termes d'attention du gouvernement en matière de sécurité. Pourquoi? Parce que le gouvernement a lancé un appel de clairon à tout l'appareil de sécurité et ils se sont rassemblés ici à Kaduna. Ils sont allés dans les forêts pour voir où les bandits sont installés.
Mais pour Aïssatou Moussa, la peur que des bandits kidnappent ses enfants à l'école n'a pas disparu.
J'ai peur de ce qui se passe maintenant. C'est pourquoi je ne veux pas qu'ils aillent encore à l'école.
Il y a deux semaines, l'UNICEF a estimé à 1 million le nombre d'enfants nigériens qui pourraient ne pas être scolarisés à cause des problèmes de sécurité. L'agence affirme que le Nigeria compte le plus grand nombre d'enfants non scolarisés au monde, environ 13,2 millions. Le responsable de l'éducation d'UNICEF Nigeria, Rudra Saou, déclare que le chiffre réel pourrait être encore plus élevé.
Au cours des mois de mai, juin et juillet, il y a eu des attaques régulières, en particulier dans la région du centre-nord et du nord-ouest. Par mesure de précaution, 11 000 écoles ont été fermées pendant cette période. Les écoles rouvrent maintenant, mais il y a toujours de l'appréhension dans l'esprit des parents.
Pour l'instant, des écoles comme l'école primaire de Kouita continueront de donner des cours, malgré l'incertitude qui plane sur la sécurité.
En Tunisie, l'université Najla Boudène Romdan a été nommée première ministre par le président Kais Saied, docteur en géologie, peu connue du grand public. Elle devient à 63 ans la première femme à occuper ce poste dans son pays. Madame Romdan devra former un nouveau gouvernement, mais aussi faire face à des défis urgents dont le Covid-19, le chômage, la corruption et surtout les finances et l'économie dans un pays très endetté, dépendant des aides internationales. Saura-t-elle affronter ces urgences? Pour en discuter, Nani Talani a joint à Tunis Mourad Selima, analyste et rédacteur en chef de la plateforme The Voices.
La situation financière d'abord, pour avoir quelque chose encore à réunir, près de 2 milliards de dollars pour boucler le budget 2021. Donc, c'est pas facile. Et ensuite, socio-économique, dans la mesure que le pays est vraiment en panne de nouvelles idées sur le plan socio-économique pour un véritable démarrage au profit du peuple, comme le dit le président.
Est-ce que Mme Boudène pourra être en mesure de continuer la lutte contre la corruption?
Mme Boudène, au moins, elle a le préjugé favorable d'être en dehors de ce réseau de corruption. Elle n'a pas été salie par cette corruption, donc elle ne saurait qu'être en bonne position pour continuer la lutte. Le reste, c'est une œuvre de toute la société, aussi bien l'administration que la société civile. Mme Boudène ne peut pas faire à elle seule la plus lui et le beau temps. Madame Boudin va essayer de mettre un programme de sauvetage et c'est à la société entière, politique et société civile, de réussir ce programme.
Beaucoup de personnes mettent en doute sa capacité à faire face à tous les énormes dossiers à cause de son manque d'expérience, disent-ils.
Durant la dernière décennie, une dizaine de chefs de gouvernement n'ont obtenu le moindre résultat pour la Tunisie. On est pratiquement resté au point zéro par rapport aux objectifs de la révolution. De deux, juste après la révolution, le gouvernement de la Troïka, de Hamadi Jbeli et Ali Larraya, tous les membres de ce gouvernement n'avaient la moindre expérience ni administrative ni politique. Madame Boudin, elle au moins, elle est directrice générale et elle a géré des projets de la Banque mondiale pour la Tunisie en matière de qualité de l'enseignement. Donc on peut lui accorder la responsabilité et espérer qu'elle réussisse. L'aider à réussir plutôt et l'aider à combler, disons, les faiblesses de son projet plutôt que dire qu'elle ne va pas réussir. Non, c'est une femme, c'est un haut cadre d'administration qui n'a pas d'expérience politique ni qui n'est pas immixée dans la corruption, donc on peut lui accorder sa chance.
Quelle pourrait être la plus grande force de Mme Boudin pour affronter tous les défis qui l'attendent?
Sa plus grande force, c'est d'être hors système. Lorsque j'ai dit que durant la dernière décennie, il y a une bonne dizaine de chefs de gouvernement qui n'ont pas réussi parce qu'ils sont dans le système et ils sont complice d'une manière ou d'une autre avec une partie de ce système. Madame Boudin a la faveur d'être en dehors de ce système.
Mourad Selima, analyste et rédacteur en chef de la plateforme de Voices, joint à Tunis. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.